Dans une putain de cellule au premier étage. Je crevais en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Le box ont commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes se mettent à saccager les pioules. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Plein qu'arrivent les lardus avec des mitraillettes. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Et y'a du baston dans la tôle. Gaffez les mecs, ça va saigner.
C'est un gros défaut de l'ensemble de notre génération, c'est l'absence de savoir transmettre. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu peut-être un espèce d'espoir à un moment que les choses allaient réellement pouvoir changer. Ça a duré quelques années. Ça a été un échec. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un échec. Et que l'effort du coup, n'a pas été assez porté. Et sûrement aussi à cause d'une fatigue postérieure, n'a pas été assez porté sur l'effort de transmission. Il sortira toujours des résistances, toujours. L'histoire s'est toujours construite comme ça. Imagine la Première Guerre mondiale, imagine cette période-là. De tout ça sont sorties des choses. Je pense que les résistances, elles sortent toujours. Toujours. Et c'est, à mon avis, c'est un défaut de l'être humain de penser que l'histoire s'arrête avec soi. Parce que c'est pas vrai, l'histoire ne s'arrête pas avec soi, c'est pas des histoires individuelles, subjectives, c'est un mouvement bien plus complexe que ça. Et que évidemment, il y a des histoires qu'on a portées, etc. Donc on a du mal à saisir comment les choses vont pouvoir évoluer, on trouve plein de raisons. Certains peuvent dire la technologie va tout empêcher, d'autres vont dire, etc. On trouve toujours plein d'explications. Mais c'est comme si, à l'époque de Gutenberg, on avait dit, tiens, l'imprimerie va maintenant, dorénavant, va bloquer toute pensée subversive. Ça a transformé des choses. Mais maintenant, c'est pour ça que quand on veut transmettre à quelqu'un, c'est comme avec un enfant, il faut du temps. Il faut savoir être patient, il faut du temps. Ça se fait pas ça c'est pas du jour au lendemain. Et bien sûr qu'au début, on peut dire, mais ça marchera jamais. Ça n'a pas de sens.
On a tenu 17 heures dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, il y a du baston dans la tôle. Il y a du baston dans la tôle. Il y a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle, baby. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'Envolée comme tous les vendredis soirs à 19h sur Fréquence Paris Pluriel en Ile-de-France et sur l'envolée.net partout en France et sur toutes les plateformes de podcast. Encore merci à toutes les radios locales qui nous rediffuse aussi. Alors ce soir au bocal, Manu à la technique et à la musique, et moi-même, Pierrot, au micro. On sera rejoint au fil de l'émission et des chroniques par K, Coco, Ga et Alex. Et puis surtout, là, vous l'avez sans doute reconnu, On vient d'entendre la voix d'Olivier, Olive Zé Migros, notre ami, notre frangin, notre poteau, notre complice, mort il y a un an déjà. Au tout début de ce confinement, dans ce soi-disant monde d'avant, il n'a pas vu le grand renfermement du monde et cette année de merde. Mais depuis 20 ans, à ce même micro, et pendant toutes ses vies avant, car il en a eu plusieurs, il a combattu les germes de la période que l'on vit. La peur de l'autre, l'hygiénisme, l'écrasement des pauvres, et bien sûr la pandémie sécuritaire qui ne fait que se développer. Il l'a fait toujours avec le sourire, avec rage, avec joie, avec colère, avec toujours à cœur de le faire en bande, en amitié, avec des complices, car c'est toujours à plusieurs que l'on se bagarre, comme il n'avait de cesse de le répéter. Donc il nous manque, le gros, il nous manque terriblement, tellement. Il manque dehors, il manque à beaucoup dedans aussi. L'extrait qu'on a choisi du coup aujourd'hui, que vous avez entendu, il a été enregistré en 2016, quand on était descendu pour aller soutenir Bernard Ripper, avocat de combat et vieux compagnon de l'envolée, que des petits juges voulaient museler. On en profite d'ailleurs au passage pour prendre dans les bras les vivants, Bernard, Rose, Christophe et Strella. Parce que comme le disait Olive, l'histoire ne s'arrête pas avec soi. Et ce monde de merde produit et produira toujours des résistances. On essaye de bien se porter et de se tenir mal. Et on rappelle aussi au passage que l'hommage sonore qu'on avait bricolé à l'époque est toujours sur le site et sera complété dans les temps qui viennent. Donc pour continuer du côté des vivants, de la bagarre et de la résistance contre tous les enfermements, ce soir au menu de l'émission, on va aller avec K du côté de marches contre les violences d'État qui ont eu lieu le 20 mars un petit peu partout en France, des cortèges dans lesquels l'envolée était présente pour faire entendre la parole des prisonniers, des prisonnières, dénoncer les QD, dénoncer les QI. On était à Toulouse, entouré de flics partout, dans une ambiance assez dure, dans une ville laissée intégralement aux magasins et aux flics. Et malgré tout, c'était très beau, beaucoup de prises de parole. Et K nous racontera, elle, la manif de Paris. Ensuite, on aura la chronique mensuelle de Coco, santé et prison, avec un rappel pour les proches et les personnes enfermées sur les fondamentaux de l'accès aux soins en prison. L'actualité des CRA, donc de ces prisons pour sans-papiers avec Alex cette semaine, qui revient sur le procès en long de la révolte du Ménil-Amelot. Et puis on recevra dans la deuxième partie de l'émission un invité qui a déjà participé à cette émission depuis un an, notamment pendant les confinements, c'est Sébastien Delorge, avocat au barreau de Toulouse. On l'interroge avec Ga sur ce projet de réforme de la justice annoncé par Super Dupont-Moretti, l'ancien baveux devenu défenseur de la matonnerie et homme politique joker de la Macronie dans cette période de course à la présidentielle sécuritaire.
Un petit retour sur ce qui s'est passé du coup samedi dernier, le 20 mars. Du coup, il y avait la marche traditionnelle hein, qui a lieu tous les ans depuis de longues années le 20 mars, mais qui cette fois mixait en gros la marche des solidarités, donc pour la régularisation de tous les sans-papiers, contre le racisme, etc. Et la marche contre les violences policières qui cette fois, appelée par le réseau d'entre de vérité justice qui s'est créée pour l'occasion, a appelé pour mettre fin aux violences pénitentiaires, pour aussi mettre fin aux violences pénitentiaires et pour lutter contre toute forme de racisme, violence systémique, donc qui ne vient pas des personnes mais bien d'un système. On était là, on portait une banderole « La prison tue » avec marqué dessus « Fin au quartier d'isolement, fermeture des mitards », donc les revendications qui sont portées notamment par l'association IDIR Espoir et Solidarité à Lyon et par d'autres familles aussi. On a aussi distribué un petit tract qui expliquait la raison de notre présence, qui du coup a été distribué ce jour-là à plusieurs centaines d'exemplaires, presque 1000. Donc voilà, c'était une bonne ambiance. Nous, on était devant le grand cortège de la marche des sans-papiers qui était ultra vivant, ultra énergique, etc. Franchement, il y avait une pure ambiance. Ça a été plutôt bien accueilli, même si on peut constater que dans tous les médias, médias qui ont relayé par la suite, la banderole n'apparaît nulle part. Mais ça a créé du débat, ça a créé beaucoup de discussions. Et sur la fin, bon, il n'y a pas eu de prise de parole de l'envolée parce qu'en fait, il y a tellement de familles qui avaient besoin de s'exprimer que il n'y a pas eu le temps. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Ce qui est super bien et ce qui est super important, c'est qu'il y avait notamment la famille de Jimoni Rousseau Sissoko, qui donc est décédée il y a très peu de temps, en février, si je ne dis pas de bêtises, au centre pénitentiaire de Mochoukonin, qui était là en force. C'était surtout une équipe de filles. Elles étaient belles, elles étaient fières, elles étaient vénères. Ça faisait trop plaisir. Koura a fait une prise de parole. Donc Koura, qui est la sœur de Jimoni, qui est partie donc suite à un tabassage ou en tout cas à une mort suspecte particulièrement étrange et en plus au témoignage d'un menton, etc. Eux, ils étaient là en force. Il y avait beaucoup de soutien. Les familles se sont beaucoup entraidées. C'était plutôt beau à voir. Il y avait beaucoup de monde, malgré ce qu'on dit plusieurs médias le jour même qui ont osé dire des choses du genre il y avait plusieurs centaines de personnes. Non, il y avait 3 à 5 000 personnes au moins. C'était gros, c'était fort. Il y avait aussi des gens qui marchaient contre l'islamophobie, contre toutes les formes de racisme. Ça faisait plaisir. Il y avait un mélange de gens trop improbables, genre des gilets jaunes, des familles, plein d'anonymes, plein de pancartes du genre « victime de violence policière, on vous croit ». Et je voulais dire que victime de violence pénitentiaire aussi, on vous croit. Et non, c'était mortel. En vrai, bref, c'est pas le bon mot à employer, mais c'était vraiment bien. Bah voilà pour mon petit résumé. C'est parti du jardin du Luxembourg, c'est arrivé à Bastille. Il y avait un dispositif policier complètement dingue, alors qu'on sait très bien que cette manif annuelle, elle ne pète jamais, parce qu'on respecte avec les familles, etc. C'est le mot d'ordre qui est donné. Et pour autant, on était complètement... En fait, c'était une manif nassée. Hein. C'était une manif qui a avancé entourée de gendarmes mobiles. Il y a des petits Playmobil partout, c'était, voilà, faut pas que ça s'arrête. Ça fait plaisir que les violences invisibles deviennent visibles, ça fait plaisir que la parole se libère, et c'est pas fini. La suite nous appelle à des bonnes choses, et puis même si finalement les Lyonnais, donc aussi toute l'équipe de Najet et tout, de tous les copains de Lyon, donc le comité qui s'est créé, l'association qui s'est créée autour de la famille Didier Médérès, qui est décédé lui à Lyon Corba, le 9 décembre, si je dis pas de bêtises, 2 semaines avant sa sortie. Même s'ils étaient pas là, leur mot d'ordre, ils étaient là. Et puis, on sait que le prochain rendez-vous, c'est le 9 mai. Voilà. Donc, on sera là. Allez, à bientôt.
While I play for you a brand new musical biscuit from the Hilton's Empire, this brand new song, they call the Ordre Fall.
Will you tell me of the fire up in the sky? Waiting for me.
Salut à toutes et tous, c'est Coco. C'est toujours compliqué de vous demander si vous allez bien, sachant que vous êtes à l'intérieur. Donc voilà, petite chronique un petit peu d'aujourd'hui pour rappeler quand même, et c'est toujours important de le dire, que être privé de liberté ne signifie pas être privé de droit. Le droit à la santé est un droit fondamental qui est systématiquement bafoué par les institutions qui en sont garantes, malheureusement. Alors par rapport à ça, il est important quand même de le redire, hein, que une personne malade en prison, elle a le droit à une qualité et une continuité des soins qui est équivalente à celle qui est offerte à l'ensemble de la population. Donc je le dirai jamais assez, mais c'est important de le dire. Et aujourd'hui, à l'intérieur, pour les personnes qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont atteintes de pathologies chroniques de longue durée ou qui ont des traitements, par exemple, importants, il faut savoir que les médecins famille ou les médecins traitants peuvent communiquer avec les médecins de l'USMP. Alors, l'USMP, c'est ce qui remplace les UCSA. On appelle ça aujourd'hui des unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Et ça remplace les fameuses unités de consultation de soins ambulatoires que vous connaissez sous le nom d'UCSA. Voilà, donc c'est quand même important. Quand vous avez des inquiétudes, les proches, quand vous avez des inquiétudes pour les personnes qui sont incarcérées, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant, si vous avez des bons liens ou des bons rapports avec elle ou avec lui, de manière à ce qu'il puisse ou ce qu'elle puisse prendre contact avec le médecin, effectivement, de l'USMP, et c'est toujours important. La seconde chose qui pour moi est importante aussi et qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que il y a des personnes aujourd'hui de plus de 75 ans qui ont commencé à être vaccinées en prison. Il y a un manque de transparence évident par rapport à cela. Il y a eu des annonces sur le fait que les personnes auraient accès à des masques. Moi, je serais curieuse de savoir si les personnes particulièrement vulnérables à la Covid peuvent demander des masques FFP2, et si c'est pas le cas, je vous encourage vraiment à les demander et à essayer de faire en sorte que vous en ayez. Et puis aussi, moi, ce qui m'interroge énormément ces derniers temps, puisqu'on le vit pas mal à l'extérieur, c'est est-ce qu'il y a des personnes incarcérées qui, par exemple, devait avoir des soins, des opérations, donc à l'extérieur, et est-ce qu'il y a eu des reports de soins, et comment ça se passe? Moi, je serais curieuse vraiment de savoir un petit peu comment ça se passe pour vous à l'intérieur par rapport à tout ça. Et j'ai envie de dire, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les camarades de l'Envolée, que sur des situations un petit peu particulières, dorénavant, si vous le souhaitez, vous pouvez appeler au 07 52 40 22 48 et j'essaierai du mieux possible, pas toute seule, bien évidemment, de répondre un petit peu à vos interrogations ou à vos inquiétudes. Mais encore une fois, il faut le plus de détails possible et le plus important, on a besoin de savoir vraiment avec précision ce que vous vivez à l'intérieur et de nous le communiquer effectivement à l'extérieur et qu'on puisse essayer de voir un petit peu comment on peut essayer de mieux vous informer. Voilà, parce que être bien informé de ses droits, c'est mieux les défendre aussi. Voilà. Et puis aujourd'hui, en cette semaine de SIDAction, ce week-end, c'est le grand week-end de la collecte de SIDAction, et j'avais envie de faire un big up à toutes les personnes qui sont incarcérées et qui chaque année, de plus en plus nombreuses, participent, donnent, organisent et sont solidaires et donnent effectivement aussi d'action. Alors moi, j'avais envie de mettre un gros focus là-dessus, un gros big up et puis surtout leur dire merci. Voilà. En tant que personne concernée, je leur dis merci. Voilà. Et puis n'arrêtez pas de vous battre parce que c'est important. N'oubliez jamais que votre droit à la santé, il est important, vous devez le faire valoir, donc communiquez avec nous et je le répète encore, sur des situations un petit peu particulières, n'hésitez pas d'appeler le 07 52 40 22 48 et je ferai en sorte d'y répondre du mieux possible. Voilà, j'espère vous retrouver très très bientôt. Tenez le coup, voilà, vous n'êtes pas tout seul, on vous dit souvent, mais vous n'êtes pas tout seul, tenez le coup, voilà, et puis essayez de garder le moral autant que faire se peut. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, et j'en fais partie, qui pensent à vous. Voilà. courage et ben je vous dis à très très bientôt. Voilà. Et n'hésitez pas vraiment à envoyer des petits messages si besoin sur des situations un petit peu particulières. Solidarité bien entendu avec toutes les personnes incarcérées. À bientôt. Bye.
Ashes to ashes, dust to dust. If the women don't get you, the liquor must.
Salut tout le monde. Du coup, le 5 mars, comme on l'avait dit dans les dernières émissions, il y a eu le procès d'une révolte dans la prison pour sans-papiers du Ménil-Amelot. Donc il y a la plus grosse prison pour sans-papiers de France qui est située dans le 77 à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. En gros, c'est une prison qui est divisée en deux. Donc dedans, il y a deux gros bâtiments, le CRA 2 et le CRA 3. Et il y a une soixantaine de prisonniers qui sont révoltés mi-janvier, donc dans la matinée du 20 janvier. Suite à l'allongement de la durée de rétention, donc qui n'est pas allongée au niveau légal, c'est-à-dire pour le moment officiellement ça reste à 90 jours, mais qui dans les faits est en train de s'allonger de plus en plus. Pour ça en fait le gouvernement et les préfectures ils utilisent un moyen qui est plutôt simple, c'est ils répriment le refus de test PCR, donc le refus de savoir si on a ou pas le Covid, parce que c'est une des manières d'éviter l'expulsion pour la majorité des personnes quoi. Donc ce refus de test PCR, les préfectures elles s'en servent sur un délit qui est un peu fourre-tout, qui est donc refus de soumettre à une mesure d'éloignement. Ça c'est un délit qui peut amener jusqu'à 3 ans de prison et en fait qui permet aux préfectures de poursuivre les personnes une fois qu'elles ont fini leur rétention, donc une fois qu'elles sont au bout de leurs 90 jours, de les amener en garde à vue, des fois en comparution immédiate, ou dans le cas du Ménil-Amelot, assez régulièrement, en reconnaissance préalable de culpabilité, donc en CRPC. Là, il y a le procureur qui vient pour proposer une peine, et généralement, donc les gars, ils acceptent en comprenant plus ou moins la procédure. Et c'est ce qui est arrivé pas mal en janvier. Par exemple, le 19 janvier, la veille de la révolte, il y a une dizaine de personnes qui sont envoyées à la fin de leur rétention au tribunal de Meaux, qui font une garde à vue et qui après passent en CRPC. Et donc, dans leur CRPC, ils prennent une nouvelle interdiction de territoire de 2 ans, ce qui permet de justifier un nouveau placement immédiat au centre de rétention. Et donc, le 20 janvier, ils retournent. Ils sont de retour au CRA et la situation pète. Comme je disais tout à l'heure, il y a une soixantaine de prisonniers qui décident de se révolter et il y a deux bâtiments qui prennent feu pendant la révolte et qui sont quasiment entièrement détruits. Donc ça représente 44 places en moins, donc ça veut dire 44 personnes qu'on ne peut pas enfermer pendant la durée des travaux. Donc ça c'est le 20 janvier, immédiatement il y a des CRS les keufs de la PAF qui sont les matons, donc des prisons pour sans-papiers, des keufs du coin du Ménilamlot et des PAFEux aussi de l'aéroport Charles de Gaulle, donc comme je disais, qui est juste à côté. Donc il y a tous ces keufs-là qui interviennent, évidemment hyper violemment, en gazant, en matraquant et en essayant de séparer les personnes. D'abord, ils vont les entasser dans une cour de promenade et après, ils vont les redispatcher dans l'autre CRA, donc dans le CRA 2 qui est en face, dans les bâtiments qui sont pas encore remplis, quoi. Ça, c'est le 20 janvier. Il y a 7 personnes qui sont sélectionnées, qui sont désignées comme leaders ou étant à l'origine du feu par les keufs qui sont intervenus en matraquant à tout va, là. Et ces 7 personnes-là, elles vont passer 5 heures entravées dans la cantine. Donc, comme un début de garde à vue. Et leur garde à vue, elle leur est vraiment notifiée à partir de 17 heures. Suite à ça, ils vont faire 48 heures de garde à vue, être transférés devant un procureur qui va décider de les faire passer en comparution immédiate. Parce que c'est le vendredi et qu'à Meaux, il n'y a pas de comparution immédiate du samedi au lundi, ils vont être amenés à passer la semaine d'après. Et donc, il y en a 6 qui sont envoyés en détention provisoire, 5 à Meaux, 1 à Villepinte. Et il y en a un qui est ramené au CRA et qui est libéré le lendemain avec un contrôle judiciaire assez strict. Donc ça arrive le 20 janvier. En fait, ce qui se passe, qui est un peu différent d'habitude, c'est que des révoltes dans les centres de rétention, il y en a tout le temps, des incendies, il y en a tous les ans. Par contre, une médiatisation et donc une dépêche AFP reprise par BFM, etc., c'est plutôt rare. Et ça va pousser l'État et les préfectures à décider de judiciariser la sanction et de pas faire comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, juste pour rappel, on en avait beaucoup parlé dans les émissions de l'Envolée, c'était aussi présent dans le numéro 52. Il y a eu un incendie dans le bâtiment 2A à Vincennes, un bâtiment qui a quasiment cramé en entier. Et là, la réponse de la préfecture a été totalement différente, puisqu'en fait, il s'agissait plutôt pour les keufs de réprimer le plus durement possible ceux qu'ils avaient désignés comme leaders et de faire des expulsions violentes pour s'assurer que le message y soit passé pour les autres. Là, ils vont décider donc de judiciariser le procès, de faire un procès des révoltes dans les prisons pour sans-papiers. Juste pour dire, la révolte, elle a lieu le 20 janvier au matin. Mais par contre, en fait, ça fait déjà plusieurs jours que la situation, elle est très tendue au CRA du Ménilamlot. Ça fait plusieurs mois qu'il y a des luttes sur cette question de l'allongement de la rétention, sur cette question des refus de tests PCR. Et à la suite de ça, en fait, les luttes, elles vont continuer sous d'autres formes à l'intérieur. Tentatives de blocage de promenade, grève de la faim, etc., qui vont être quand même assez sévèrement réprimées, notamment au Ménilamlot. Il va y avoir des transferts disciplinaires pour les grèves de la faim qui vont suivre. Enfin bref, tout ce qui en fait amène à cette révolte du 20 janvier, il n'y a rien qui a changé depuis. C'est-à-dire qu'il continue d'y avoir des gens qui sont envoyés en tôle ou qui font des allers-retours au palais de justice et après qui sont renvoyés en centre de rétention. Il continue d'y avoir des violences policières, il continue d'y avoir des intimidations, des humiliations et des coups de presse pour que les gens ils acceptent les tests PCR. Il continue d'y avoir des faux vols affichés pour continuer de justifier la rétention, quoi. Donc tout ce qui amène en fait cette révolte là, et ben en fait ça continue et c'est pour ça que les gens à l'intérieur continuent de se battre exactement pour les mêmes raisons. Donc il y a une première audience qui est appelée pour donc dans la semaine qui suit, c'est le 26 janvier à Meaux, et il y a un rassemblement qui est appelé par l'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France devant le tribunal de Meaux où il y a une vingtaine qui se réunissent. On en avait parlé déjà dans une émission de fin janvier. C'était un moment un peu particulier parce que c'est les moments où la justice décide, en prétextant du Covid et de la crise sanitaire, que les audiences au pénal ne seront pas publiques et qui donc genre décide de juger à huis clos en fait ces personnes-là. Les avocats ils vont demander le report et du coup l'ensemble des 7 ils vont être jugés le 5 mars pour rébellion en réunion et pour l'incendie pour 4 d'entre eux et pour refus de test pour l'ensemble des 7. Suite à ça, donc il y a ce que je disais, c'est qu'il y a le 26 janvier, il y a la première audience, il y a le report. Quelques jours plus tard, il y a une première assemblée publique qui est lancée en Île-de-France. Pareil, pour essayer de construire la solidarité de dehors de manière la plus large possible. Il y a un rassemblement à Barbès qui se fait, où des prisonniers du centre de rétention de Ménilamlot, de Vincennes, appellent pour raconter comment ça se passe à l'intérieur et pour aussi apporter leur solidarité à ceux qui sont actuellement en prison. Et il y a une cantine qui a appelé le 27 février au squat Le Marbré, on en a parlé aussi. Une cantine qui a appelé pour essayer de trouver des thunes pour financer les mandats et la solidarité avec les 6 qui sont en détention provisoire depuis le 20 janvier. Cette cantine-là, juste pour dire un peu, on en avait aussi parlé rapidement, mais en fait c'est un moment un peu particulier parce qu'il y a les keufs et donc la préfecture de Paris, donc avec l'Allemand à sa tête, qui décide d'expulser le squat à 14h sous prétexte d'une fête interdite. Et donc c'est une centaine de keufs qui arrivent, qui défoncent la porte, qui contrôlent tous les gens qui sont à l'intérieur et qui collent des amendes pour réunion interdite. Donc on en avait parlé parce que le lendemain, il y a eu une manifestation, qu'ils pensaient avoir bien vidé le squat, mais qu'en fait il y avait des personnes qui étaient restées dedans, et que donc l'expulsion qu'ils ont voulu mettre en œuvre en prétextant la cantine, elle n'a pas pu se faire. Donc voilà, on repasse beaucoup de force aux copains et aux copines du Marbré qui ont réussi à tenir leur squat malgré la répression, quoi. Du coup, le dernier truc, c'est que le 5 mars, il y avait un appel à se rassembler devant le tribunal de Meaux, toujours. Cette fois-ci, on était une quarantaine à être présents. Donc, pour continuer d'apporter une solidarité avec les prisonniers qui vont être jugés, et pour montrer qu'en fait, non seulement on est solidaire de cette révolte-là à l'extérieur, mais qu'aussi, on est solidaire de tous les prisonniers, toutes les personnes qui passent au tribunal. Comme à la première audience, c'est le même juge, la même proc, l'audience n'est toujours pas publique. Les seules personnes qui ont le droit d'y accéder, c'est des journalistes et des avocats, avocates. C'est les journalistes qui sont censés être les garants du fait que les débats ils soient publics, quoi. Ce qui est un vrai délire quand on connaît un peu ce que c'est les journalistes, et particulièrement ceux qui pouvaient être là, quoi. Mais voilà, du coup il y a un premier combat là-dessus pour essayer d'obtenir que l'audience soit publique, mais il y a une dizaine de keufs qui sont à l'entrée, qui réussissent à empêcher l'accès, et il y a le juge qui se montre, qui refuse en fait de juger ça publiquement. Juste pour dire en vite fait, parce que je vais revenir en deux minutes sur l'audience, c'est une audience qui dure 12 heures, donc le délibéré va se tenir à 3 heures du matin, enfin le verdict il va être rendu à 3 heures du matin. Et pendant ce temps-là, donc les prisonniers, ils avaient décidé de construire une défense collective. Donc il y a une série d'avocats qui se mettent à travailler avec eux. Il y a des témoins qui sont appelés. Il y a trois témoins particulièrement. Il y a un juriste de Grenoble, Slama, qui vient pour raconter d'un point de vue légal ce que c'est en fait les conditions de rétention, en quoi elles amènent les gens à se révolter et en quoi ces révoltes elles sont légitimes. Il y a un journaliste qui était déjà passé avec une sénatrice visiter le centre de rétention de Mesnil-Amelot pour raconter les tensions à l'intérieur, les violences policières et les conditions d'enfermement en période de crise sanitaire. Et enfin, il y a un ancien prisonnier du Mesnil-Amelot qui vient lui aussi pour raconter à la fois les questions de bouffe, les questions sanitaires et les questions de violences policières. Et donc tout ça, c'était aussi pour ramener le fait qu'en fait, si la justice avait décidé d'en faire le procès des révoltes, c'était aussi pour les prisonniers le procès en fait du centre de rétention et de l'enfermement massif des étrangers en France à ce moment-là, quoi. Le juge qui va juger ça, en fait, c'est un ancien du JLD du coin, donc des juges des libertés et détention. C'est un des juges qui a donc participé en fait à toute cette machine à expulser en prolongeant des rétentions pendant des années avant d'être nommé en pénal à la comparution immédiate. Et la procureure, elle fait partie en fait de... C'est la même procureure qui a proposé des CRPC à au moins deux personnes le 19 janvier. Et donc en fait, c'est les gens qui vont juger ça, qui vont faire le procès de tout ça. C'est des personnes qui sont en fait impliquées dans cette machine à expulser. Et c'est un peu ce qu'on décrit souvent ici, c'est que nous, quand on parle depuis les centres de rétention avec les personnes qui sont enfermées, mais que ça permet aussi de lire très bien la chaîne qui se passe, des keufs jusqu'à la justice, qui est là à chaque fois pour confirmer en fait et la légalité de la rétention et légitimer les violences policières et légitimer les humiliations pour forcer à l'expulsion, quoi. Par rapport aux nullités, il y en a cinq qui étaient soulevées principalement. La première, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que leur garde à vue elle a été notifiée à 17h, sauf qu'ils ont été entravés à partir de midi, et donc ils ont passé 5 heures entravés dans le réfectoire. Normalement, à partir du moment où on est entravé, il faut nous notifier la garde à vue, sauf que donc la garde à vue est notifiée à 17h et elle est prolongée le lendemain à 17h. Ce qui veut dire que soit c'est la prolongation qui n'est pas valable parce que c'est la garde à vue commence à midi, soit c'est l'ensemble des gardes à vue qui ne sont pas valables parce qu'on leur a notifié leurs droits trop tard par rapport à la garde à vue effective, quoi. La deuxième nullité qui était importante, c'est qu'il y a des personnes qui ont signé des papiers en garde à vue sans comprendre et sans interprète, sous pression des keufs. Il y avait une nullité qui était soulevée sur la question des refus de tests PCR, sur la question du soin et du fait qu'en fait on est libre, chacun devrait être libre de pouvoir refuser ou accepter des soins. Sauf que la loi asile-immigration qui a doublé la durée de rétention il y a 2 ans, elle a aussi élargi le délit un peu fourre-tout dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de refuser de se soumettre à une mesure d'éloignement. Et donc en fait maintenant même un refus pour des raisons médicales rentre là-dedans, et donc ça permet aux procureurs et aux préfectures en fait d'enfermer et de demander l'enfermement massif des prisonniers en centre de rétention, quoi. Il n'y a aucune de ces nullités évidemment qui va être retenue par le juge, il va décider de juger ensemble le fond et la forme, donc on sait ce que ça veut dire. Comme je disais, l'audience elle va durer une douzaine d'heures. Les prévenus en fait, donc ceux qui étaient accusés, ils ont décidé de ne pas parler et de ne pas répondre aux questions du procureur sur l'affaire en elle-même, simplement de raconter ce que ça voulait dire être enfermé au centre de rétention. Et donc ils essayent de renverser un peu la trame qu'a décidé la justice en essayant donc de ne pas parler sur les faits mais d'insister sur les conditions de rétention et sur qu'est-ce qui fait que les prisonniers dans les CRA ont raison de se révolter, particulièrement en ce moment, même si nous on pense qu'ils ont tout le temps raison de se révolter. Juste pour dire, parce que là il reste plus beaucoup de temps, mais que les peines de prison elles ont été quand même assez vénères. Ça va de 4 mois de prison ferme à 16 mois de prison ferme. Il y a deux personnes qui prennent 12 mois, une personne qui prend 16 mois, une personne qui prend 7 mois et une personne qui prend un an avec sursis. Et donc il y en a 5 qui sont renvoyés à Moche-au-Connin et un qui est renvoyé à Villepinte. Voilà, juste j'en profite pour dire que s'il y a des personnes qui souhaitent se montrer solidaires pour essayer de continuer d'apporter du soutien pour les mandats, pour la solidarité en général avec ces 6 personnes, il ne faut pas hésiter à contacter l'Assemblée contre l'écra d'Île-de-France. Il y a le site abalecra.noblog.s.org pour prendre des nouvelles et il y a le mail anticra@riseup.net pour nous contacter, pour essayer de voir comment on peut être solidaires ensemble. Pendant ce temps-là, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la solidarité dehors, elle n'a pas arrêté de se manifester. La quarantaine de personnes qui étaient présentes devant le tribunal, parce que c'est impossible de se faire entendre de l'intérieur, parce que les keufs nous empêchent l'accès au tribunal, et le président, enfin le juge aussi, quoi, décide de partir un peu en manif dans la ville, histoire de porter un peu l'histoire, quoi, de cette révolte dans mots, et de continuer à faire vivre l'histoire, quoi. Juste pour finir, c'est un procès classique de révolte, c'est-à-dire où la violence des keufs, la violence des institutions, la violence de l'État, elle est légitimée et approuvée par la justice, mais où par contre la moindre réaction des gens, se retrouve surréprimée, quoi. Par exemple, là, il y a 6 keufs qui se présentent partie civile, enfin, il y a 6 personnes pour être dans les parties civiles, 5 keufs et un représentant de l'État. Et en fait, les keufs, eux, ils demandent évidemment des sous, parce que c'est comme ça qu'ils grattent leur 13e mois. Et pendant l'audience, en fait, on se rend bien compte que ce qu'ils racontent, c'est totalement n'importe quoi sur les questions de violence, etc. Et qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à vraiment décrire la scène. Et c'est plutôt eux qui ont été hyper violents, qui ont vachement gazé, etc. Mais ça, évidemment, le juge ni la proc vont retenir ça. Et ce que je disais, c'est que donc tout le monde est reconnu coupable et il y en a 6 qui repartent en détention provisoire. Voilà.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crie que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
À vous laisser les invites, y porter une marmite qui était à renversement et la retourne prudemment.
Le brigadier commissaire met les eaux poulets vulgaires, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, y'en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on peut en voir jusqu'au plafond.
Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais.
Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie.
Les sociales n'ont rien fait pour abréger les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement va l'anarchiste. Plus de misère salariée, mise à prix sur le marché. Plus de patrons et plus de patrices, tu es pour eux, c'est fini.
T'en es passé des réformes, des rébellions dans la norme, pour régler radicalement le problème social en suspens.
Dans la rue des bons enfants, viens d'apprendre au plus offrant. L'avenir à Dieu prend place, car le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viens d'apprendre au plus offrant. L'avenir à Dieu prend place, car le vieux monde est à la casse.
On est aujourd'hui à l'antenne avec Sébastien Delorge, avocat au barreau de Toulouse. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
On a envie de parler, de revenir un petit peu en long sur les propos de Super Dupont-Moretti, le ministre des Tribunaux et des Prisons, à propos de son projet de réforme de la justice qu'il a annoncé en grande pompe au début du mois et qu'il a commenté dans la presse.
Et rappelons juste avant ça que c'est donc à Super Dupont que l'on doit la censure nationale dans toutes les prisons de France, donc du numéro 52 du journal d'Envolée dont on vous a déjà parlé à cette antenne.
Décidément. Un ancien avocat devenu ministre qui prend toujours la défense des petits. Hein, c'est vraiment à son habitude. On va écouter un extrait. Donc ça, c'était un extrait d'une intervention à la radio le 3 mars dernier sur France Inter.
Il était au 7-9 de France Inter. L'invité.
Donc le journal du matin, il répondait aux questions de Salamé et de Mourant sur sa proposition de réforme de la justice qu'il a trouvé le moyen de glisser dans le calendrier législatif au mois de mai prochain. Et on verra en discutant que ça a son importance, cette histoire de calendrier. On a décidé de ne pas rentrer dans beaucoup de choses qu'il aborde, à savoir les enquêtes préliminaires, filmer les audiences, etc. Tout ça, on aura le temps d'en reparler. C'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. On écoute ce qu'il raconte sur sa fameuse proposition sur les dites réductions de peine. On écoute.
L'automaticité, c'est fait pour les machines et pas pour les êtres humains. Les réductions sont automatiques. Parce que les peines automatiques, on va le dire, c'est une façon tout à fait hypocrite de réguler la population carcérale. Moi, je souhaite que l'effort, vous voyez, prenne tout son sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une société sans effort. Ça valorise le détenu. Et c'est triplement vertueux, je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que ça incite le détenu à l'effort. À la mesure de ce qu'il est. Hein. Je l'ai dit, ça peut être apprendre à lire, ça peut être se soigner, ça peut être travailler. Déjà ça, c'est un effort. Deuxièmement, c'est vertueux pour la société. Parce que les gens qui sortent de détention doivent être meilleurs, évidemment. Et troisièmement, et il ne faut pas l'oublier, c'est vertueux pour le personnel pénitentiaire qui fait un travail extraordinairement difficile. Moi, je dis qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui vont au boulot. Pour certains d'entre eux, ils sont déjà au boulot depuis quelques heures. Ils savent ce que c'est que l'effort. Et dans le débat, on dira « c'est une mesure populiste », on l'a déjà dit, moi je dis que c'est une mesure populaire. Nous allons intégrer davantage de surveillants pénitentiaires dans la décision à venir parce que je ne veux plus qu'on ne les considère que comme des porte-clés. Nous avons engagé 7000 places. Il ne s'agit pas d'incarcérer plus, il s'agit d'incarcérer dans la dignité.
Alors, entre autres réformes, il va beaucoup insister dans cette interview sur la suppression du caractère prétendument automatique des crédits de réduction de peine. Il va pour cela rappeler et l'oublier assez rapidement que un système de crédit de réduction de peine supplémentaire existe déjà depuis la loi pénitentiaire de 2009 qui vise à récompenser les efforts, je mets des guillemets, de réinsertion et d'adaptation sociale des personnes détenues en leur octroyant quelques semaines par an des crédits de réduction de peine supplémentaires. Seulement, à côté de ce système existe toujours un système dit de crédit de réduction de peine qu'il qualifie d'automatique. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle va être écrouée, une fois que les délais de recours seront expirés et que sa condamnation sera définitive, on va lui indiquer une date prévisible de sortie. On va prendre sa condamnation, on va soustraire à celle-ci 3 mois pour la première année d'emprisonnement, 2 mois pour les années suivantes. Ça, c'est le système actuel que le ministre de la Justice propose de supprimer. Alors, il me semble que c'est important d'expliquer pourquoi il se propose de le supprimer. Et en fait, dès le début, il y a quelque chose qui peut nous interroger. Ce projet de loi s'appelle, en tout cas a pour but, de renforcer la confiance dans l'institution judiciaire.
Oui, puisque plus d'un Français sur deux ne l'aurait pas, cette confiance.
Alors, déjà, on peut s'étonner que vienne faire une réforme des crédits de réduction de peine dans la confiance que font les citoyens à l'institution judiciaire. C'est étonnant. Finalement, c'est pas si étonnant quand on écoute un peu plus avant son intervention, parce qu'il va faire ce que font tous les politiques depuis 30 ou 40 années, dès lors qu'il s'agit de réformer la prison, c'est qu'il va opposer la situation des travailleurs pauvres avec la situation des personnes détenues.
Exactement. Et quand il dit lui-même, en pensant le désamorcer, l'idée qu'on va lui reprocher que c'est une mesure populiste, il sait très bien, lui, que c'est une mesure populiste. Et il dit déjà, c'est une mesure populaire, c'est pas une mesure populiste. Pourquoi c'est une mesure populiste ? Dans le sens, aller chercher, gratter dans le sens du poil, la réaction, en fait, simplement. Hein, ce truc d'aller bosser tous les jours, d'en chier tous les matins, et de se dire qu'à l'intérieur, eh ben, eux, ils branlent rien, les prisonniers. C'est toujours ce truc-là, éternellement, de dire que systématiquement, les prisonniers, eux, s'en tirent très bien, etc.
C'est la théorie de l'hôtel 4 étoiles.
Et du Club Med. Et en fait, il ne fait que ça, dans cette réforme-là. Parce que sur le fond, il répond à rien. Quand on lui demande, ou quand une avocate l'appelle pour lui poser une question en disant « mais en fait, ce que vous dites, c'est pas tout à fait ça, etc. », il répond pas. en fait. Il répond pas, à aucun moment il répond. Il répète son laïus sur les gens qui se lèvent tôt et qui vont travailler, sarkozisme basique, hein, d'il y a 15-20 piges, populisme pénal.
La France qui se lève tôt.
La France qui se lève tôt, je veux dire, rien d'autre que ce truc-là. Et surtout, en jouant donc son argument populiste, c'est de jouer sur une méconnaissance et sur un mensonge qui court déjà. Ce mensonge qui consisterait à dire qu'il y a des peines, des remises de peine automatiques. Et ça, là-dessus, il faut revenir là-dessus, parce qu'il le dit deux fois, c'est-à-dire qu'il ment éhontément en disant « je m'intéresse au caractère automatique, et ça n'est pas normal, etc. » Alors, on va revenir, c'est pas parce que crédit de remise de peine automatique inclut le mot « automatique » dedans que c'est vrai. Donc ça, il faut le dire, peut-être.
Alors, déjà, on les appelle les CRP. On ne les appelle pas les CRPA, d'accord ? On les appelle les crédits de réduction de peine. Pas qu'ils sont automatiques. C'est qu'en fait, la loi donc, a prévu ce système qu'on exposait tout à l'heure. Et on peut lui accorder ça quand même. Éric Dupond-Moretti sait de quoi il parle. Et on peut lui en faire le reproche. Mais on peut lui accorder ça quand il dit qu'effectivement, c'est une hypocrisie, ce système de crédits de réduction de peine. Pourquoi ? Parce que et en fait, ils ont été instaurés dans des années où, achevant le tournant sécuritaire des politiques publiques en France, on a dit qu'il faut incarcérer plus, tolérance zéro, il y en a marre de l'impunité, il faut frapper fort les récidivistes, etc., etc., etc. Mais, parce qu'il s'agit d'être pragmatique aussi, et que l'État n'a pas les infrastructures pour accueillir toutes ces personnes condamnées, on se dit « bon ». Il va falloir faire notre petite cuisine entre nous et finalement, il va falloir gérer les flux. C'est les mêmes qui ont fait les deux systèmes. Et Dupond-Moretti a raison de dire que c'est un système parfaitement hypocrite.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit... Donc c'est la réforme de Perben, hein. C'est une réforme qui n'est pas si vieille que ça. Jusque-là, ça n'existe pas. C'était il y a 12-13 ans, hein. Je ne sais plus exactement les dates, mais c'est ça. On en a parlé à cette antenne. Cette idée de crédit de réduction de peine qui a été vachement critiquée à l'époque en disant c'est un crédit, c'est-à-dire qu'en fait tu rentres et on te file un crédit, mais comme n'importe quel crédit, tu dois le rembourser en fait, au fur et à mesure de ta peine. Et c'est comme ça, et c'est pas pour rien que ce mot il est employé non plus, c'est-à-dire que t'as un cred, t'arrives, et on te dit, bon bah, potentiellement, tu peux aller prendre dans ton crédit.
Et qu'il est en réalité soumis au comportement... qui vont se passer à l'intérieur de la prison au cours de la détention de quelqu'un.
Exactement. Et en fait, on te sucre ce crédit. Parce qu'au fur et à mesure, avec ton comportement, tu ne l'as pas remboursé correctement. C'est exactement un... sous couvert d'automatisme, il fonctionne déjà comme un système de rétribution contre rétribution.
Sauf que là, on va aller plus loin dans les efforts que doit fournir la personne emprisonnée pour, en fait, obtenir ce crédit auquel, normalement, elle aurait droit automatiquement.
Et alors, le garde des Sceaux, quand il oppose la situation du travailleur pauvre aux détenus, ne devrait pas insulter les travailleurs pauvres, parce qu'eux, ils savent ce que c'est qu'un crédit. Ils savent que quand ils empruntent de l'argent, acheter quelque chose, cet argent ne leur appartient pas.
Il n'est pas gratuit.
Ils savent que c'est la banque qui est propriétaire de leur véhicule, de leur maison, etc. Mais c'est exactement la même chose pour les détenus. Si on leur explique comme ça, ça va changer les choses déjà. Non, le détenu, on lui donne sa date prévisible. La date à laquelle il sera libérable. Non pas libéré, mais libérable. Et tout ça, c'est conditionné, effectivement. Et effectivement, c'est un instrument de gestion de la détention. Il ne serait pas étonnant, et je crois que certains s'en sont fait l'écho, que certains syndicats de surveillants pénitentiaires s'opposent d'ores et déjà à cette réforme.
Mais eux, ils s'y opposent pour d'autres raisons, évidemment, que nous. C'est-à-dire non pas parce qu'ils analysent la question du crédit, mais parce qu'ils disent que c'est une insulte à tous les pauvres et à tous les gens qui sont enfermés. Ils disent, en faisant ça... Nous, on sait très bien qu'on s'en sert comme une carotte. C'est ce que disent les surveillants et les surveillants et les syndicats de matin.
C'est aussi le reproche que fait, entre autres, l'OIP à Dupond-Moretti sur ce point-là, c'est-à-dire de dire, là, vous êtes en train de supprimer la carotte. Il ne va plus rester que le bâton.
En même temps, il les flatte, ces syndicats, parce que si on rebondit quand même sur ce qu'il dit dans son truc... Encore une fois, hein, vous rappelez ce qu'on a dit de nombreuses fois à l'antenne et ce qui était dans ce numéro 52 censuré par Super Dupond-Moretti, où il était écrit aussi, par ailleurs, dans ces pages, que monsieur... le nouveau ministre des tribunaux et des prisons n'était pas vraiment le ministre qui allait défendre les prisonniers n'était pas celui qu'on attendait, ou l'avocat qui d'un seul coup deviendrait le Badinter, le nouveau Badinter de Monsieur Macron. En fait, si, il est celui qui défendait les surveillants. Il l'a fait en allant se promener, donner des gages auprès des surveillants. On l'a écrit dans ce numéro. Et d'ailleurs, dans cet entretien, il le dit très très clairement. Et c'est même Léa Salamé elle-même, la journaliste, qu'on ne peut pas quand même soupçonner d'être une ultra-gauchiste, hein, qui se retrouve à lui dire à l'antenne « Mais en fait, on aurait pu croire que vous alliez faire la grande réforme des prisons, que ça allait vous être le grand ministre des prisons qui allait faire en sorte qu'il n'y ait plus de surpopulation, etc. »
Sous texte, le nouveau Badinter.
Le nouveau Badinter, quand même, on s'attendait un petit peu à ça. Et là-dessus, il insiste sur le fait que « Ah non, mais d'abord, il fait une réforme des prisons, puisqu'il construit des places de prison. » Et que c'est ça ce qu'on fait, et c'est ça ce qu'on entend par réforme des prisons depuis 40 ans.
Il là-dessus, parle de 7000 places supplémentaires, dont les endroits sont déjà trouvés. Et évidemment, c'est encore pour, ce n'est pas pour incarcérer plus, c'est pour incarcérer mieux. Ça nous rappelle une vieille chanson.
Qui a 40 ans. Une chanson qui a 40 ans et qui connaît très très bien, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il sait de quoi il parle, le bonhomme. Donc quand ce bonhomme en particulier dit ces choses-là, on peut lui en faire d'autant plus le reproche, dans la mesure où lui, il sait qu'une place de prison construite égale une personne supplémentaire qu'on met en prison, et non pas un matelas dans une cellule pour supprimer un des 800 matelas qui sont au sol. C'est pas ça ce qui se passe, etc. Et il insiste sur le fait, il répète hein, plusieurs fois que donc, ces crédits de remise de peine sont pas automatiques. Rentrons un tout petit peu dans ce qu'il veut rajouter à cette carotte pour rendre le dispositif encore plus difficile d'accès et en faire un outil de mérite, en fait. Il veut rajouter de la méritocratie au sein de la peine. C'est-à-dire que tu rentres, tu t'es fait condamner, tu prends ta peine, mais en plus, à l'intérieur, en fonction de ton profil, selon quels critères, on ne sait pas, hein, c'est ce qu'il dit, on va déterminer une espèce d'engagement contractuel que tu prendrais, alors que tu n'as pas décidé de la prendre, cette peine de prison. C'est quand même un peu une drôle de manière de concevoir la peine. Hein,
mais ça, c'est son côté super papa, justement, où il se permet même un parallèle en disant « Quand on est parent, on dit à nos enfants de se lever, de faire ci, de faire ça. » Sauf que, pardon de le dire, mais Monsieur Dupond-Moretti, vous n'êtes pas le père des prisonniers de France.
Et puis vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas super nanny non plus à demander à toutes les mères et à vous mettre dans la peau des mères de famille quand ça vous arrange, comme vous savez très bien le faire d'ailleurs, d'habitude.
Cette gestion paternaliste de la délinquance, il s'en est fait aussi l'écho quand il a présenté à la commission des lois quelques idées interpellant, je crois que c'était Éric Ciotti, en disant « on n'est pas du même bord, mais on a pensé les mêmes choses s'agissant d'un possible encadrement des mineurs délinquants par l'armée ». C'est toujours la même logique qui est à l'œuvre. Alors, par ailleurs, il sait que son ministère n'a que peu d'argent, que ces places de prison, c'est certainement pas eux qui vont les financer, mais on va encore se lancer dans des espèces de partenariats publics, privés, etc. Il ne répond pas à la question de ma consoeur, ni à celle, tu viens de le dire, de Léa Salamé sur « Bon, très bien, imaginons qu'on vous croit ». C'est déjà un effort considérable. Mais imaginons donc un détenu qui veut apprendre à lire, qui veut voir un psychologue, qui voudrait se soigner, qui je sais pas quoi, etc. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Tout le monde sait que, évidemment, que non. Et quand on lui demande, mais quels sont les moyens, qu'est-ce que vous allez faire, etc., il ne répond absolument pas et il repart dans la comparaison du travailleur français qui se lève tôt, du gardien de prison qui fait un métier formidable et qui n'est pas qu'un simple porte-clés. C'est-à-dire que, de toute façon, et ça il faut l'évacuer parce que c'est ridicule et tout le monde le sait, le ministre n'a même pas les moyens de son ambition. Bon, voilà. Alors du coup, ça repose finalement une question, pourquoi ces annonces ? Tu parlais tout à l'heure de calendrier, et c'est vrai qu'on ne peut que se demander, ce projet de loi devrait passer à l'Assemblée en mai, soit à un an des élections présidentielles. Il y a quelque chose qui est assez énervant, s'agissant par ailleurs d'un ancien confrère, et tu parlais tout à l'heure de Badinter, son illustre prédécesseur. Et pour un avocat, quand on devient garde des Sceaux, et pour tout le monde, on pense à Badinter, à l'abolition de la peine de mort, etc., etc. On pense à ce souci qu'il y a pu avoir sur les conditions de détention. Et Robert Badinter a toujours dit et a toujours ramené le problème des conditions d'incarcération à un problème politique et social. Et il a toujours dit qu'évidemment ça serait jamais porteur de s'intéresser aux prisonniers, à leurs conditions de détention, parce que tant que le chômeur, le travailleur pauvre aura l'impression d'être moins bien traité que quelqu'un qui a commis des délits, jamais, jamais une transformation du système répressif et carcéral ne sera envisageable. C'est la loi d'Airain sur la question, c'est lui qui l'a qualifiée comme telle, et 40 ans plus tard, Éric Dupond-Moretti se sert de ces mêmes arguments dont on sait qu'ils n'ont que pour but d'opposer les gens, qui seront toujours au mépris des personnes incarcérées. C'est un coup politique néant, c'est même tout bénef, hein, pour tout le dire. Hein.
D'autant que cette année, c'est effectivement le 9 octobre, ce sera les 40 ans de l'abolition, de la dite abolition de la peine de mort, qui est plutôt un aménagement de la peine de mort, selon nous, puisqu'on meurt toujours vraiment beaucoup et trop souvent en prison. Tous les 3 jours en moyenne, quelqu'un meurt, que ce soit un suicide, que ce soit sous les coups des surveillants, des violences pénitentiaires. Et effectivement, il va jouer quelque chose là-dessus, très probablement, en ce mois d'octobre, d'anniversaire.
Un calendrier qui décide, parce que lui sait qu'il y a le mois d'octobre et qu'il y a cette histoire-là. Et c'est pas complètement pour rien qu'un an avant, effectivement, on dit, parmi les premiers actes du début de cette campagne présidentielle qui va se défaire, qui sera sur le thème politique de la sécurité. Donc là, on sait que cette élection, elle va prendre, évidemment, elle va être sur ce terrain-là. Et là, il se donne un petit peu des armes, il se donne une manière d'aborder la question, pour imposer au reste de leurs petits adversaires politiques, là, en leur disant, voyez, nous, on va gérer cette histoire, et c'est nous qui décidons quand on en parle, comment on en parle, et c'est nous qui, dès le début, on vous coupe l'herbe sous le pied. Et on s'attaque à quoi? Pardon. On s'attaque exactement à ce terrain que vous allez prendre, vous, droite, extrême droite, ultra-droite, voilà, que vous allez prendre, à savoir le terrain des délinquants qui sont mieux traités que le reste de la société et qui sortent n'importe quand. Revenons quand même sur un événement qui a eu lieu juste avant mars, c'est-à-dire 15 jours avant, débat télévisé entre Marine Le Pen et Darmanin, où Darmanin accuse Madame Le Pen d'être un peu molle politiquement, et où Marine Le Pen dit « Vous avez libéré 15 000 personnes pendant le confinement ». Qui intervient 3 jours après à la radio et à la télé, partout sur les plateaux, pour rectifier et dire ce que pense le gouvernement là-dessus? C'est ce même Éric Dupond-Moretti qui intervient pour dire « Madame Le Pen dit n'importe quoi, moi je vais vous dire ce qu'on a fait. On n'a pas du tout libéré 15 000 personnes, on en a libéré 6 000. » Bon, c'était pas lui, c'était sa prédécesseur. Hein. Mais il dit « On en a libéré 6 000 qui étaient à un mois de la fin de leur peine. » Et en disant ça, il dit « On n'est pas les laxistes que vous dites qu'on est. On est très dur avec ces délinquants, on est suffisamment dur avec eux. Juste, il fallait faire un petit peu soupape et on a libéré les gens le dernier mois. » Et si on doit faire un pont,
c'est avec, bien que quelqu'un avec cette enfin histoire-là. Quand même. Ça, écoute, comme ça, au moins, on arrête avec cette histoire.
C'est vrai que pendant des mois, on s'est senti un peu seul à le dire quand même. On a passé notre temps à le dire à l'antenne en disant « Mais c'est faux, personne ne sort. » Tous les gens qui nous écrivaient et qui faisaient passer des messages à cette antenne et qui disaient « Moi, je vois personne sortir. » C'est pas vrai. Tous les gens que je vois sortir, c'est des gens qui devaient sortir le mois prochain de toute façon. Donc qu'on me dise pas qu'on a vidé les prisons quand même. C'est quoi ce délire? Qu'on me dise pas que l'administration a super bien géré cette crise à l'intérieur de la détention.
Qu'est-ce que c'est? La vérité est désormais rétablie, c'est chose faite.
Bon, elle est rétablie, mais personne ne l'a soulevée. Hein. Tout le monde s'en fout, parce qu'en fait, maintenant, elle est rétablie, mais dans le sens inverse, pour servir le discours sécuritaire à venir. C'est ça l'horreur du truc. À un an, voilà, il y a un an, il fallait dire on libère des gens quand même parce que ça fait bien et on les laisse pas crever à l'intérieur, ce qui s'est passé quand même. Hein, voilà. Un an après, on a toujours des parloirs plexi de merde, partout dans les détentions, qui empêchent les familles de se voir et des gens qui vont plus voir leurs proches au parloir. Mais on rétablit le chiffre. Pourquoi? Pour que un an plus tard, on essaye de gagner la présidentielle contre l'extrême droite en étant soi-même sur le terrain de l'extrême droite et en lui disant on sera plus fort que vous là-dessus parce qu'on a des propositions concrètes nous. Le même, enfin j'ai l'impression que l'histoire ne fait que se répéter depuis 20 piges.
Et ce même Éric Dupond-Moretti qui maintenant dit on n'a libéré que 6000 personnes il y a un an, en mars dernier, était co-signataire d'une tribune, profiter de ce moment-là de pandémie, de coronavirus, etc., etc., pour enfin régler ce problème de la surpopulation carcérale.
Bon, seulement, du surenfermement de la population.
Seulement à l'époque, il n'était pas ministre et il ne disait pas « on ».
C'est ça, donc il n'a plus le même costume, alors du coup il dit des choses différentes. Et dans cette interview sur France Inter, on apprend notamment qu'il compte entamer une psychothérapie, donc peut-être qu'à ce niveau-là, ça changera quelque chose.
Est-ce que du coup, il se rendra compte que quand il n'a pas sa cape de super-héros, en fait, il dit vraiment les banalités que l'extrême droite a dit pendant des années et qu'il continue à dire ? Est-ce qu'il s'en rend compte de ça ? Qu'il a un béret, une petite moustache et qu'il va nous faire, en fait, Super Dupont, ad vitam, là ? C'est quoi ce délire ? Est-ce qu'il s'en rend compte, le bonhomme, là, l'ogre ?
Alors, il se rend compte de certaines choses, parce qu'il dit quand même au début de l'interview, et on se dit qu'on pourrait reprendre cette phrase... à bon compte, c'est que l'automaticité, c'est pour les machines, pas pour les êtres humains. Bon, effectivement, il est quand même à la tête d'un ministère de la déshumanisation des personnes. Et effectivement, il serait temps qu'ils soient pris pour ce qu'ils sont, des êtres humains et non pas des machines.
Là, pour le coup, s'il y a une automaticité qui va pas remettre en cause quand même, et peut-être qu'on fait un petit bond en arrière à nouveau en disant ça, mais qu'en fait, ça va être une automaticité, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, ça va être une automaticité de la non-remise de peine qu'il aimerait. En fait,
mais oui, mais alors là, effectivement, on va rentrer dans des choses
un
peu plus techniques et qui montrent bien qu'en pratique, et de toute façon, à chaque fois, il renvoie, il dit non, mais de toute façon, on verra, ça sera par décret, vous allez voir, c'est formidable. Effectivement, ça paraît peut-être un peu sujet à caution, mais vous inquiétez pas, ça va être formidable. Mais on voit immédiatement pour les courtes peines que ça va être une catastrophe. On ne sait pas comment pratiquement ces commissions d'application des peines, le texte, en l'état, hein, parce qu'il va bouger, hein, prévoit une fois par an minimum. Quand vous avez quelqu'un qui est condamné à 4 mois, à 6 mois, à 8 mois, il n'aura pas de crédit de réduction de peine. Bon, bah, au moins, la question est réglée. Il pourra faire tous les efforts qu'il veut.
Mais qu'il ne pourra pas faire d'ailleurs.
Qu'il pourra pas faire d'ailleurs. Il va pouvoir faire des demandes. Hein, je voudrais apprendre le français, je voudrais travailler, je voudrais me soigner, etc. etc. Bon. Et... On peut rentrer hein, dans ce débat technique, peut-être ça vaudra le coup, parce que le texte va beaucoup bouger, qu'on en reparle d'ici là, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui immédiatement font tiquer, c'est-à-dire que quand il nous dit, et je reviens sur le caractère prétendument automatique de ces crédits de réduction de peine, que quelqu'un qui refuse de se soigner les a, c'est faux. Vous avez quelqu'un qui est condamné pour agression sexuelle et qui ne va pas entamer de suivi, c'est un motif de retrait des crédits de réduction de peine.
Donc, le non-paiement des parties civiles est un motif de retrait des crédits. Le fait de ne pas demander du travail, même pas de l'obtenir et de le faire, mais le fait de ne pas demander de travail est déjà utilisé, en fait, à la tête du client et en fonction des nécessités de gestion. C'est toujours un équilibre, en fait, entre la personnalisation de la peine qui s'applique en fonction de ce que décident de personnaliser les JAP ou les services d'insertion et de probation, hein, par ailleurs, et de l'autre côté, le flux à gérer en fonction de telle ou telle prison, hein, et de quel type de gens sont enfermés, et de est-ce qu'on a de la place, est-ce qu'on n'a pas de la place. Donc, évidemment que tout ça, c'est du super mensonge.
Alors, je, peut-être pour terminer là-dessus et sur cette comparaison qui est vraiment repoussante entre les travailleurs pauvres et les détenus, on parlait tout à l'heure de cette notion de crédit et tout le monde à l'extérieur d'une prison sait comment ça marche un crédit et dans quelle mesure on est propriétaire de rien quand on a un crédit. Quand Éric Dupond-Moretti dit mais ces détenus là qui font rien toute la journée, qui regardent la télé, ils veulent pas aller travailler, etc. Moi, ça me fait penser à toutes les problématiques sur les minima sociaux, où on va dire, mais alors ces chômeurs qui ne veulent pas trouver de travail, mais alors ces gens au RSA qui ne font rien. Bon, mais alors du travail, déjà pour tout le monde, il est acquis qu'il n'y en a pas, mais alors en détention, en détention, il y en a encore moins. Donc ce parallèle qu'il fait, vraiment, c'était vraiment odieux.
C'est répugnant.
C'est répugnant.
Et je vous annonce que Je fais une psychothérapie, je fais tous les efforts nécessaires. Et c'est mieux pour tout le monde. Mais moins d'un Français sur deux dit ne pas avoir confiance dans la justice. Nous allons intégrer davantage de surveillants pénitentiaires parce que je fais une psychothérapie, je le redis, je fais tout pour devenir meilleur. Everybody was kung fu. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu.
Aborder avec toi la question des parloirs, puisque tu fais partie du collectif d'avocats de Toulouse qui ont porté les recours des prisonniers de la maison d'arrêt de Seyss et qui ont fait condamner la maison d'arrêt de Seyss sur ces parloirs où donc les gens avaient des vitres en plexi et ne s'entendaient pas.
Alors ça fait partie des nombreuses dégradations des conditions de détention qu'a opéré le coronavirus. Un effet assez inattendu, on pensait que c'était une maladie, et finalement, ça s'est surtout attaqué, en tout cas à l'intérieur, à une dégradation des conditions de détention, parce que ici comme ailleurs, au nom de la pandémie, on a énormément restreint les droits des personnes incarcérées.
Encore plus qu'ailleurs, même par cette espèce d'effet lorgnette de la prison où c'est une micro-société empire pour tous ses aspects et où là, effectivement, c'est une partie de la population qui n'a plus accès à ses proches depuis maintenant un an, il faut le dire, et c'est quand même hallucinant et ça n'émeut vraiment pas grand monde.
Alors pendant le premier confinement, ça a été une suspension pure et simple des parloirs féminins.
17 mars. Suspension du jour au lendemain,
fermeture.
Pour tout le monde, fermeture, sine die, sans date de remise en forme. Du coup, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé coupé. Ça pète dans toutes les prisons pendant une semaine, je cesse de le rappeler quand même à ce micro, parce que l'histoire officielle est a coulé dessus, Dupond-Moretti n'y est pas pour rien non plus, il a contribué à réécrire cette histoire de la très bonne gestion de l'administration pénitentiaire, de ça et du fait que les prisonniers avaient été, dans le meilleur des cas, des oubliés dont on n'avait que faire, et dans le pire des cas, quelques révoltés ici et là qu'on s'occupe aujourd'hui de punir dans tous les tribunaux de France où ils ont été transférés.
Et aujourd'hui, les parloirs sont donc soi-disant rétablis depuis un moment, sauf qu'en fait, ils sont toujours avec ces mesures hygiaphones, c'est-à-dire une vitre de séparation entre les visiteurs et la personne qui est emprisonnée. Et ça, c'est une mesure qui est donc une mesure disciplinaire, normalement, qui est là soumise à tout le monde. Et à la prison de Seyss, ce qui s'est passé, c'est que les gens ne s'entendaient même pas derrière cette vitre. Ils n'arrivaient pas à discuter.
Et alors, ce qui est terrible, de toute façon, à chaque fois qu'on s'intéresse aux conditions de détention, c'est que même avocats, on se rend compte des difficultés, mais des mois plus tard. C'est-à-dire que le déconfinement, c'est le 11 mai. Les parloirs familles sont rétablis un petit peu partout, dans ces conditions-là de parloir IGFE.
Ils mettent un mois et demi à arriver.
Alors, je veux dire, pour un avocat, on se dit, tout a repris, et c'est normal, etc., etc. Et ce n'est qu'en décembre dernier, on dit... Là, en fait, ça suffit, on n'en peut plus. Pardon, vous en pouvez plus de quoi ? Bah, en fait, écoutez, on ne s'entend plus, ils nous ont mis deux vitres en plexi, ça va du sol au plafond et de gauche à droite. Par ailleurs, ils mettent du gel régulièrement là, pour désinfecter, etc. On n'y voit plus, on a le masque obligatoire, on ne peut plus se toucher, et en fait, on ne s'entend plus. Et des familles de détenus qui disent « Mais en fait, moi, j'y vais plus. Je vais pas faire 150 km pour avoir une demi-heure de parloir parce que la durée des parloirs a été réduite de 45 minutes à 30 minutes. Pour, c'est déchirant.
Oh, c'est une torture.
Vous avez une personne âgée qui entend pas très bien. Le masque entrave déjà, et ça, tout le monde peut s'en rendre compte, la communication. Alors, il faut l'imaginer dans ces circonstances-là.
Surtout, pardon, mais ce que précisent les gens enfermés, c'est ce qui est délirant dans cette histoire, c'est que donc, ça continue, ça va faire un an, et que... Ils ont pour autant le droit de voir les matons qui rentrent et qui sortent, les SPIP, les intervenants. Et donc, en fait, ils sont en contact avec des dizaines de personnes par semaine, différentes qui, elles, ont une vie à l'extérieur, mais leur famille, non.
Sans parler des entrants, hein. Parce que quand même, on a continué à...
Enfin, à faire rentrer du monde en prison.
L'État a continué à enfermer des tas de gens en permanence. Non, j'y suis vraiment pour rien.
Bon, mais... et ça, de toute façon, on revient toujours là-bas. Hein, le problème, c'est l'entrée. Le problème, c'est l'incarcération. Tant qu'il ne se passera rien là-dessus, rien ne changera jamais. On écrit à la directrice de la maison d'arrêt de Seyss, en s'étonnant un petit peu. Le code de procédure pénale, ce que tu disais tout à l'heure, prévoit le principe de la non-séparation des parloirs famille. Il y a plusieurs cas qui sont envisagés. Qui peuvent conduire à une séparation, c'est si la personne détenue le demande, si la personne qui visite le détenu le demande, ou s'il y a eu un incident disciplinaire, exemple typique, j'ai fait passer un objet, etc., etc. Bon, donc c'est une sanction. Et donc, c'est un texte répressif qui figure dans le code de procédure pénale, qui doit être interprété le plus restrictivement possible. C'est-à-dire que c'est la seule mesure qui puisse justifier une séparation. On écrit à la maison d'arrêt, on dit on ne comprend pas trop. Des détenus et des familles de détenus nous ont indiqué ça. Confirmez-vous effectivement qu'il y a ça. Et s'il y a ça, il va falloir l'enlever parce que c'est purement et simplement illégal. La directrice de la maison d'arrêt, avec laquelle depuis plusieurs mois, on a entamé des dialogues sur l'accès au linge, etc. Parce que le coronavirus, c'est ça aussi. Hein. C'est l'hiver, plus de linge entrant, etc. etc. Sur les masques aussi. Et nous répond en disant, oui, c'est le Covid. C'est le Covid, on a une note de l'administration pénitentiaire qui dit, il faut des vitres en plexi et des parloirs dits hygiaphones. Bon, sur la base de cette décision... On a introduit, donc, avec les confrères Russell, Brel et Brandly pour le SAF, un recours devant le tribunal administratif au fond, et en attendant, un recours en référé demandant à suspendre l'application de cette disposition, à savoir les vitres de plexiglas. Alors, comme à son habitude, l'administration pénitentiaire répond... hors délai, mais le juge administratif là-dessus et ce l'usage ne lui en fait pas grief, nous octroie un temps pour répondre. Que nous dit l'administration pénitentiaire ? Nous dit, mais en fait, c'est le Covid. Bon, très bien. Ça, c'est un peu une réponse qu'on a eue pour les masques, pour le linge, pour tout et n'importe quoi. C'est le Covid, donc c'est comme ça. Par ailleurs... finalement, ça évite ces vitres en plexiglas, les incidents, parce que ça évite que les gens se transmettent des objets, etc., etc. Bon, Alors du coup, on comprend pas bien.
Ça semble beaucoup plus sécuritaire.
On comprend pas bien l'objectif. Du coup, quel est le rapport avec le coronavirus exactement? Et en fait, ce qui est important de comprendre et ce qui est extrêmement préoccupant sur cette dégradation des conditions de détention, c'est est-ce qu'un jour les choses vont revenir à l'état d'avant le 13 mars dernier? Parce que finalement, l'administration pénitentiaire nous dit quasi benoîtement, mais en fait, bon, il y a le coronavirus, mais on s'aperçoit que c'est un très bon instrument de gestion de la détention. On va moins faire de fouilles, et pourtant ils en ont fait quand même, après les parloirs famille, parce que de toute façon, comme ils peuvent pas se toucher, ils peuvent pas passer d'objets, finalement c'est mieux. Et puis peut-être qu'on va envoyer moins de surveillants voir ce qui se passe dans les parloirs famille, puisque maintenant on a des vitres. Donc on dit, bon, là on répond au juge, mais attendez, je comprends pas bien, j'ai l'impression qu'il est plus sécuritaire l'objectif que sanitaire.
Et cette question du, on va dire, retour à la normale, ou en tout cas des droits qui sont perdus en prison, c'est la question de toutes les luttes de prisonniers depuis des années, c'est-à-dire qu'ils disent tout le temps, dès qu'on perd quelque chose pour une raison X ou Y, une maladie ou quoi, on ne le récupère pas.
On ne revient jamais en arrière.
Donc là, effectivement, combien de temps ça va durer, ce délire?
On l'a dit souvent à cette antenne quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de proches qui ont fait sortir cette parole, notamment à l'automne, quand l'été était passé là-dessus, hein, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, il y a eu des courriers, des nombreux courriers de proches qui disaient c'est inadmissible ce qui nous arrive, en disant ici c'est comme ça, ici c'est là, parce que comme d'habitude c'est aussi soumis à l'arbitraire des directions et des matons et du rapport de force, hein, dans chacune des prisons. Donc à tel endroit c'était un petit truc sur une table, puis à d'autres comme à Seyss où c'est l'usine, où là boum boum on a foutu des trucs dans tous les murs et tout a été verrouillé, bétonné quoi, je veux dire c'est vraiment, c'est costaud quoi. Mais globalement les retours ils venaient de partout, en France, en Belgique aussi, on a publié dans le dernier numéro un courrier de famille, de nombreuses familles qui disaient ensemble, qui se regroupaient pour écrire ensemble en disant c'est inadmissible les conditions qu'on nous fait vivre, on n'est pas une sous-humanité, on n'est pas des bêtes en fait, vous allez arrêter de nous considérer comme des chiens, aussi bien les gens qui sont à l'intérieur que les gens qui viennent les voir, faut arrêter de nous considérer comme ça. Ça n'a pas cessé depuis, là il y a encore un communiqué de proches qui sort pour dire ça suffit, arrêtez de nous faire ça, arrêtez de nous considérer comme des chiens, mais ça n'est même plus l'actualité, quoi. C'est-à-dire que ça a fait 3 brèves à l'automne dernier, hein, parce que bon, il était de bon ton pour certaines presses d'aller regarder un petit peu ce qui se passait. Il s'est rien passé. On retombe encore une fois sur ce truc de fond, qui est de dire, politiquement, la prison, ce n'est utile que pour en mettre plein la gueule à des gens. C'est comme ça que la prison est un outil politique utilisé par les trucs. Ce ne sera jamais un outil qui sera pratique et où des gens diront c'est inadmissible, c'est une inhumanité, on va faire quelque chose contre ça parce que nous, on est les tenants de la défense des droits humains et on est des existentialistes de l'après-guerre. C'est fini, je veux dire, il n'y a plus personne pour dire ça. Donc, dans cette période, ce qui s'est perdu à ce moment-là va être perdu dans les temps qui viennent s'il n'y a pas de mouvement costaud à l'intérieur et s'il n'y a pas une réaction à l'intérieur des détentions.
Et d'ailleurs, à propos de ça, du coup, votre, on va dire, victoire, entre guillemets, parce que la maison d'arrêt de Seyss a fait des petits trous dans le plexiglas en estimant que c'était bon, sauf qu'ils ne l'ont pas testé en conditions réelles avec 20 personnes dans le paloir, etc. Donc c'est une bagarre qui est en cours, mais qui par contre a fait du bruit dans les prisons. Et donc il y a aujourd'hui à la prison de Châteauroux, je crois, 15 prisonniers qui font un recours collectif dans le même sens. Et nous, on a eu des questions qui nous sont remontées aussi, donc des gens qu'on connaît enfermés ou de leur famille, qui est, est-ce qu'on peut faire ce recours même si on s'entend? C'est-à-dire qu'il y a plein de prisons où il y a ce plexiglas, mais les gens s'entendent. Et la question, c'est qu'ils ont quand même envie de lutter parce que ça fait des mois qu'ils n'ont plus envie non plus que leur famille vienne au parloir, ils n'ont pas vu leur môme, rien, ils ne peuvent pas toucher leur femme ou leur mari. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est un recours qu'on peut faire dans le cas où, en fait, la sonorisation est quand même bonne?
Alors, déjà, la sonorisation est bonne, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que c'est pas parce que toi tu m'entends quand je te parle que d'autres vont s'entendre, ça dépend des conditions extérieures, ça dépend de l'âge des gens, de leur élocution, ça dépend de plein de choses.
Donc,
finalement.
Donc ça peut se plaider toujours un petit
peu. Par ailleurs, moi j'ai aucun doute sur le fait que dans l'état actuel du droit, le principe même de la vitre en plexiglas est illégal. La question qui va se poser, en revanche, c'est que pour saisir le juge en référé, c'est-à-dire en urgence, ça va être l'appréciation de cette urgence-là. Et c'est là où on va voir ce que nous disent les tribunaux administratifs. Et s'ils vont pas, eux, dire « Bon, c'est pas formidable, mais il y a le coronavirus. » Moi, je considère qu'en l'état actuel du droit, la séparation doit être enlevée.
Voilà. Okay. Donc, la réponse qu'on peut faire à tous ceux qui se posent la question et qui nous la posent par l'intermédiaire de cette histoire, c'est de dire « ça se tente toujours ».
En tout cas, il faut se battre, et partout, pour qu'elle le soit. Dans et toutes les maisons d'arrêt, dans tous les établissements pour peine, pour qu'on remédie à cette situation. Même Dominique Simoneau a fait ce constat-là.
Contrôle général des lieux de
détention. Oui, pardon. Et a effectivement indiqué que ce n'était pas possible des parloirs dans ces conditions. Donc, là, à Toulouse, à Châteauroux, à Angoulême, etc., il faut qu'il y ait le plus de recours possible à faire, parce que en l'état actuel, cette séparation, elle est inacceptable.
Et plus les recours seront collectifs, plus ça va avoir
plus
de poids,
plus ça met une pression.
Ça met de pression, donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'organiser et les déposer à plusieurs.
Moi, j'ai envie de dire deux choses là-dessus. C'est-à-dire que le recours, il faut voir que c'est des mesures, comme tu le disais tout à l'heure, et comme l'ont dit tous les prisonniers qui le savent à l'intérieur, je veux dire, tous les longues peines qui se retrouvent avec ça et qui disent « moi, je ne veux pas voir les gens pendant un an, je ne vais pas leur imposer ça », ils savent très bien que ça évite aux matons, avant tout, qui sont les grands gagnants de cette histoire, d'avoir à se taper des déplacements, d'éviter des fouilles et d'avoir à gérer leur détention. Comme ça, s'il y a des trucs qui rentrent en détention, il n'y a plus qu'eux qui le font rentrer. Hein, comme ça, c'est eux qui gèrent le business à l'intérieur encore plus que d'habitude.
Money.
Voilà, money et 13e mois, on le sait très très bien. Je veux dire, il ne faut pas nous prendre pour des cons et prendre les gens qui sont à l'intérieur pour des cons. C'est exactement ça dont il s'agit. Hein, donc, ils sont bien contents de gérer bien leurs petites affaires peinardos. Ensuite, ça leur évite de bosser au quotidien sur des tas de trucs, parce que quand même, hein, on le rappelle toujours, tous les droits qui sont enlevés aux prisonniers sont des droits qui sont gagnés pour les surveillants, hein, et non pas l'inverse. C'est pas du win-win, hein, cette affaire. Contrairement à la Startup Nation, tout le monde ne gagne pas dans ces trucs-là. Donc, si ça permet aux directions de rendre contents ces personnels, et ben du coup, il faut que ça emmerde les directions d'avoir des tas de plaintes et d'avoir des tas de recours qui sont posés ici et là. Et puis là, ils commenceront à se dire, bon, qu'est-ce qu'on a
chiant,
ça commence à devenir chiant, cette histoire, peut-être que là, on va lâcher un peu du truc. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Là, c'est une petite guérilla juridique qui consiste à être ennuyeux pour les directions dans ce qu'ils ont à gérer au quotidien. Donc, c'est chiant à faire, c'est difficile de faire ça dans son coin, c'est difficile d'en discuter avec les autres pour le faire à plusieurs, c'est difficile de faire bosser son avocat ou ses avocats là-dessus, parce que tout le monde ne porte pas des recours aussi facilement que vous le faites, ou en tout cas avec autant d'énergie.
Sauf qu'il y a, il y a quand même des avocats qui ont l'énergie.
Là, il y a des avocats qui ont l'énergie de le faire, donc il faut le faire.
Je
veux dire, il faut le faire, il faut les solliciter, il faut pousser le truc. Que ça aboutisse, que ça aboutisse pas. Et l'autre chose quand même, c'est qu'en plus de ces histoires de recours, moi, je veux rappeler ce qu'on a lu à l'antenne à l'époque. On a lu des communiqués de prisonniers, de prisonnières basques, hein, qui étaient à l'intérieur, ou de familles à l'extérieur, qui faisaient des communiqués conjoints, qui faisaient des mouvements, hein, pour obtenir, pour s'opposer. On se rappelle de ces fameux parloirs où il y avait donc, c'était une mesure hygiéphone indirecte, c'était des murets dans les parloirs, où les prisonnières basques montaient et s'asseyaient sur les murets systématiquement, pour continuer à discuter et dire c'est notre manière de protester. Du coup, c'était un rapport de force, hein, c'était dur, évidemment, c'était tout ça. Mais quitte à pas avoir le parloir, une suspension de parloir, bon, enfin, je veux dire, la question, elle se pose. Mais il faut se rappeler que des gens l'ont fait, des prisonniers l'ont fait, des proches l'ont fait à des moments, et ils se sont dit, en fait, là, maintenant, ça suffit. Et on peut se dire qu'on peut ne pas, voilà.
Oui, je voulais juste rebondir à ce que tu disais sur la question de l'issue heureuse ou malheureuse du contentieux devant le juge. Est-ce que le juge va donner raison, pas raison, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que ça met une pression constante. Et il faut qu'elle soit partout et dans le plus d'établissements pénitentiaires possible. À chaque fois qu'on amènera l'administration pénitentiaire à se justifier, à devoir répondre, à devoir répliquer, ça aura un coût aussi pour elle. Et dans ce rapport coût-bénéfice, etc., etc., c'est là aussi que se crée un rapport de force. Et chaque fois qu'on oblige l'administration à se justifier, à se défendre, etc., elle va réévaluer aussi nécessairement ses actions à l'aune des risques à chaque fois contentieux qui existent.
Donc alors on y va, on fait une recours partie, quoi.
Donc continuez à le faire, hein. Celles et ceux qui le font à l'intérieur, bravo. ça se tient, il faut continuer à faire ça en ce moment. C'est très important parce qu'encore une fois, on le répète, on est un peu lourd avec ça, hein. Mais tout le monde le sait, hein. Ce qu'on perd, on le perd.
Ce qui est perdu, est perdu. Et au-delà de ça, c'est vraiment inadmissible, mais inadmissible que des gens puissent pas voir leurs proches, enfin, puissent pas, voilà, maintenir les liens familiaux, être complètement interdit comme ça de voir ses proches, c'est du délire. C'est du délire absolu. Quand ils ont fait ça dans les maisons de retraite au premier confinement, ils l'ont fait pendant un mois et ils ont arrêté en disant en fait c'est une torture scandaleuse.
Ils ont mis plus qu'un mois d'arrêt.
Quelques temps, en fait, bah, les vieux, ils se laissent mourir, c'est terrible, c'est de la torture. C'est de la torture pour en maison de retraite et pas en prison. C'est infernal cette histoire.
On revient à cette hypocrisie. Éric Dupond-Moretti présente un projet de loi où on nous dit qu'il y en a marre des détenus qui font rien, il faut qu'ils se réinsèrent socialement. Et qu'est-ce qu'on fait dans le même temps? On les désocialise. En les empêchant de voir leurs proches. Alors qu'on sait, depuis le début, que c'est un moyen de les faire tenir.
Oui. En tout cas, merci, Sébastien Delorge, avocat à Toulouse, d'avoir fait cette discussion avec nous.
Voilà.
Merci à vous, et oui.
Au moment, on reviendra sur cette histoire, hein, parce qu'on sait que dans les mois qui viennent, elle va occuper l'actualité médiatique et l'actualité... télévisé, et puis qu'on va se le taper à l'intérieur, on va se le taper à l'extérieur, ça va être non-stop. Et il faut que ce dialogue-là, que le dialogue important à cette antenne entre l'intérieur et l'extérieur, il continue très très fort sur cette question-là. Je veux dire, il faut des témoignages sur ce truc-là, des tas de gens qui disent « faut arrêter de se foutre de ma gueule ». N'hésitez pas à nous écrire sur ces trucs-là en disant « moi, j'ai fait une demande de machin, j'ai fait une demande de machin, j'ai fait une demande de machin, j'ai jamais rien eu, faut arrêter de se foutre de ma gueule ». Je veux dire, on en parlait encore la semaine dernière avec des gens, ça n'arrête pas. Je veux dire, pour n'importe quel conditionnel, tout le monde le sait, qu'en fait, on demande des CDI qui n'existent pas dans le monde du dehors, donc comment pourrait-il exister à l'intérieur ? Bref, cette logique, elle est au cœur de la prison, il faut la démonter depuis la prison. Voilà, comme d'hab. Il faut sortir des preuves que ça, tout ça n'est qu'un mensonge, et donc de la politique qui se fait sur le dos des enfermés et de leurs proches, encore une fois.
Ouais. Force et courage à tous et à toutes, et vivement que vous puissiez prendre vos proches dans les bras.
On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell.
There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. I've been cell block number 9.
The trouble started in cell block number 5 and spread like fire across the prison floor. I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with the Tommy gun. Warden said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. In the 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then.
There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number
On vient d'écouter la version Riot in Cell Block No. 9, la version US du générique de l'émission. C'était évidemment encore un hommage au gros, comme toute la sélection musicale de cette émission. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez évidemment écrire à l'envolée par courrier à l'envolée FPP 1 rue de la Solidarité 75019 Paris, 1 rue de la Solidarité 75019 Paris, par mail à contact@l'envolée.net et puis par téléphone au 07 52 40 22 48 07 52 40 22 48 et sur tous les réseaux sociaux Snap, Insta, Facebook, Twitter, vous trouverez aussi l'envolée. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand salut général à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent à l'intérieur, à leurs proches à l'extérieur qui se bagarrent pour faire entendre leur voix, leurs revendications, leur colère. Bravo à toutes et tous. C'était très beau la semaine dernière. On continuera comme ça à faire vivre aussi les paroles des enfermés à l'intérieur et du coup en particulier dans les QD et les QI. Donc ce soir, un gros coucou, un gros salut final particulier à Mounir et à Michael. Portez-vous bien, tenez-vous mal tous et toutes à l'extérieur et comme disait le gros, encore une fois, il n'y a pas d'arrangement.